Stop, c'est parti. Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
C'est votre dernier mot.
Et c'est reparti pour un quart d'heure et une semaine d'actualité des médias.
Bonsoir, merci d'être avec nous.
Les images, les correspondants en direct.
C'est une aventure le journalisme et c'est pour ça que la télévision est encore magnétique.
Dans un mois exactement s'ouvrira le procès de François Fillon et de son épouse Pénélope. L'ancien candidat à la présidentielle est accusé d'avoir détourné à son profit personnel plus €1,3 million. En tandem, comme à leur habitude, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, journalistes au Monde, ont mené l'enquête. Portrait à l'acide d'un homme confit dans l'avarice. Son âpreté au gain n'aurait d'égal que sa haine pour Nicolas Sarkozy qui le lui rend bien. Deuxième tome donc d'un livre sur le suicide de la droite française dont les barons, se sont brutalement entretués. Et interrogation sur la machine judiciaire qui tourna à plein régime lors de l'affaire Fillon. Et si Davet et Lhomme abondaient finalement dans le sens du futur prévenu au lieu de l'enfoncer, surprise. Décidément, voici deux plumes dont on ne sait jamais à l'avance dans quel bain d'acide elles iront tremper.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Je pense que la droite française s'est suicidée avec ses divisions et ça commence pas avec la campagne présidentielle, c'est bien plus ancien. Il y a quand même depuis une vingtaine d'années des batailles uniquement personnelles, uniquement individuelles, uniquement d'égo, et il n'y a pas beaucoup de débats idéologiques. Ce qui a animé la droite depuis les 20 dernières années, c'est pas des débats idéologiques.
Et quand il dit bataille, François Fillon, il sait de quoi il parle. C'était le 1er octobre dernier, un retour médiatique très discret. Il avait choisi la télévision suisse. Bonjour à tous les deux, Gérard Davet et Fabrice Lhomme.
Bonjour.
Bonjour.
Apocalypse Now, les années Fillon, c'est donc le deuxième tome de l'histoire secrète de la droite française, paru chez Fayard. Le premier tome s'appelait La Haine. Le premier tome, c'était les années Sarko. Voilà, La Haine, titre de cinéma. Apocalypse Now, re-titre de cinéma. Qui déteste François Fillon à droite? Eh bien, tous ceux contre qui il a férocement cogné, frontalement ou dans le dos. Hein, il a deux méthodes à son actif. Frontalement d'abord, c'est Jean-François Copé. Ces deux-là se sont entrechoqués pour prendre la tête du parti. Vous l'avez raconté, Jean-François Copé rendu ensuite responsable du financement totalement délirant de la campagne de Nicolas Sarkozy. Jean-François Copé chassé par Fillon, entre autres, dans une scène de mise à mort que vous racontez, c'est glaçant. Nicolas Sarkozy, ensuite, et on va commencer par là, chers invités, il exécrait son premier ministre et il n'a pas l'intention de le voir passer devant lui en 2016. Mais il ne s'attendait pas à ce que François Fillon déjeune avec Jean-Pierre Jouyet, secrétaire général de l'Élysée sous Hollande, en juin 2014. Que François Fillon pousse les socialistes à faire pression sur la justice pour éliminer Sarkozy et que vous, journaliste, vous le racontiez dans un livre. C'est ça?
Oui, exactement. C'est bien résumé. C'est le fameux déjeuner donc entre Jean-Pierre Jouyet et François Fillon. Mmh. C'est l'erreur absolue commise par Fillon, dont il va payer en fait les conséquences bien plus tard. C'est-à-dire que les sarkozystes ne lui pardonneront jamais ce qui est pour eux la trahison ultime. Allez voir le camp d'en face, c'est-à-dire les socialistes, pour essayer de désinguer quelqu'un qui est normalement un simple rival dans sa propre famille politique. Et ça, il le paiera, mais il le paiera plus tard. Et sur le coup, c'est vrai que nous tous qui avons
parlé de ça... Ça avait déjà fichu un sacré bazar.
Oui, exactement. Mais après, on est passé à autre chose, en quelque sorte. Mais sauf que les sarkozystes, eux, ils n'ont jamais oublié.
Alors, le livre s'appelait Sarko s'est tué. Roselyne Bachelot vous dit Nicolas Sarkozy, il est devenu dingue après ça. Tous, ils jugent le déjeuner Fillon-Jouyet comme un moment charnière. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est est-ce que vous n'avez pas tous les deux, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, une vision assez égocentrée de la politique française et assez mégalomane? Ainsi, elle tournerait autour de vos livres à vous. C'est-à-dire vos livres déclenchant des séismes et ensuite de l'onde de choc de ces séismes, vous tirez un nouveau livre, Gérard Davet.
Oui, mais on n'invente rien. C'est-à-dire que notre...
Oui, mais vous vous placez au centre du jeu quand
oui,
même.
Oui, mais notre tort, c'est effectivement d'avoir, par exemple, notre tort entre guillemets, c'est d'avoir raconté ce déjeuner, d'avoir outé ce déjeuner Jouyet-Fillon. Mm-hmm. Or, ce type de déjeuner, il y en a très régulièrement au sein de la politique française et au sein du pouvoir. Simplement, nous, c'est vrai, on met les pieds dans le plat. Quand on apprend ce genre de choses, on le raconte. Et évidemment qu'ensuite, ça tourne autour.
Et vous le faites confirmer par François Hollande, Fabrice Lhomme, encore dans un autre livre qui s'appelait « Un président ne devrait pas dire ça ».
Oui, c'est-à-dire que Hollande... quelques temps, en fait, après le déclenchement de l'affaire en 2014, déjà nous avait confirmé l'existence du déjeuner. Simplement, nous, on respecte notre parole. Il y avait un engagement avec François Hollande. Tous les propos qui nous tenaient pendant les 5 ans où on l'a vu ne pouvaient pas être utilisés avant l'échéance du quinquennat et avant la publication du livre sur Hollande. Donc, c'est pour ça que c'est paru tardivement. Mais là où on pourrait penser que c'est une espèce de manipulation de notre part pour laisser le suspense et créer des rebondissements, pas du tout. Parce qu'en 2014, quand le scandale éclate et que certains ont contesté la véracité de ce déjeuner, je peux vous dire qu'avec Gérard, on avait les nerfs parce qu'on se disait, mais c'est pas possible. On a le président de la République qui nous le confirme et on peut pas le sortir parce qu'on lui a promis qu'on le ferait pas. Donc on l'a sorti plus tard. D'où l'idée, effectivement, de donner l'impression de créer un feuilleton. Mais c'est les acteurs qui créent le feuilleton, c'est pas ceux qui le racontent.
Je lis la dernière phrase de votre ouvrage. Précision utile. Quand les populismes menacent de tout emporter, la politique est un art majeur qui ne saurait se circonscrire aux errances de quelques-uns. Ah bon? C'est-à-dire où? Et quand, dans vos livres et dans vos articles, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, la politique est traitée comme un art majeur?
Parce que nous sommes des journalistes d'enquête, c'est-à-dire qu'effectivement, on s'intéresse...
Donc vous ne vous intéressez qu'aux magouilles?
On s'intéresse aux trains qui n'arrivent pas à l'heure. C'est vrai, c'est vrai, c'est la vérité, on l'assume parfaitement. Mais évidemment que moi, on passe beaucoup de temps en province avec Fabrice dans les conférences et autres, et on rencontre énormément d'élus qui sont des élus qui se dévouent totalement à leur village, à leur commune, à leur rue, à leurs écoles. Et ça, ce n'est pas de la démagogie que de dire ça, je le pense sincèrement. Donc du coup, pour moi, c'est un art majeur. Simplement, dans cet art majeur, il y a évidemment des errances, des déviances. Et c'est notre travail, à nous, journalistes d'enquête, de les révéler, de les raconter, de les assumer.
Fabrice Lhomme, vous disiez, on a remis en question la véracité de ce déjeuner. François Fillon, le premier, il vous a traîné en justice. Ça a été pour lui un échec cinglant. Vous le répétez dans le livre, vous enregistrer tout ce que vos témoins vous racontent. Vous avez décidé tous les deux d'utiliser ces enregistrements, c'est-à-dire vos bandes à vous, qui sont l'équivalent de vos carnets de notes en réalité, hein, et de les faire entendre. De les faire entendre dans un podcast qui va être publié chez nos confrères de Magellan à partir de mercredi. On va entendre la voix de vos témoins. C'est très inhabituel. Normalement, ça reste dans les archives, notes ou enregistrements.
Oui, c'est inhabituel parce que peut-être que la façon dont on travaille est un peu inhabituelle, mais en réalité, nous, quand on voit les gens, on fait des interviews, tout simplement. On fait des interviews.
Et vous les citez.
On les cite
jamais
toujours.
Citation anonyme.
Exactement. C'est-à-dire qu'on ne dévoile pas, j'allais dire, des propos qui auraient dû rester cachés. Simplement, on les publie d'abord sous forme écrite parce que c'est notre instrument préféré. Et c'est là qu'on est le meilleur. On est plutôt formé presse écrite. Après, la force d'un propos, et c'est pour ça qu'on a aimé travailler avec Magellan, et on l'avait fait aussi pour Le Monde, un autre podcast sur l'histoire de la gauche, et c'est pareil, on avait diffusé quelques extraits des entretiens qu'on recueille, parce que ça prend un poids supplémentaire. Moi, je l'avais vécu à travers l'affaire Bettencourt, quand j'étais à Mediapart, on avait récupéré les enregistrements. Ceux-ci étaient clandestins, c'est très différent, donc plus discutable, mais les enregistrements du majordome chez la vieille dame, et le fait de les entendre, d'entendre la vieille dame parler, c'est autre chose que de lire ce qu'elle dit. Donc il y a une force de la voix, c'est pas un fou que je vais apprendre ça, et ça nous, donc on a estimé qu'avec ces podcasts, on pouvait apporter un petit plus, c'est-à-dire quelques extraits.
Vous demandez l'autorisation à vos interlocuteurs.
On l'a toujours fait jusqu'alors et il n'y a pas de raison que ça change. Et en général, ça ne pose pas de problème parce que les gens savent qu'avec nous, au moins, il peut y avoir aucune triche. On reprend mot pour mot ce qu'on nous dit.
Allez, entrée en campagne 28 août 2016 dans la Sarthe, le candidat à la primaire de la droite, François Fillon.
Ceux qui briguent la confiance des Français doivent en être dignes. Ceux qui ne respectent pas les lois de la République ne devraient pas pouvoir se présenter devant les électeurs. Il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen ?
Jusqu'au jour où est sorti le canard enchaîné et ses révélations. Vous le dites, l'un et l'autre, vos interlocuteurs sont obsédés par l'origine des fuites. Le plus choquant, ça ce sont vos mots, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, c'est lorsque ça vient des médias eux-mêmes, c'est-à-dire d'autres médias que le canard enchaîné, qui devraient, comme le canard enchaîné, ne soigner qu'une chose, la liberté de la presse. Or, l'un des fondamentaux de la liberté de la presse, c'est le secret des sources. Et pourtant, vous vous lancez, vous aussi, dans une espèce de chasse à la taupe. D'où ça peut venir, ces fiches de paix et ces contrats qui sont d'une précision au centime près. On comprend du coup pas très bien à quel jeu vous jouez, Gérard Davet.
On est sur une ligne de crête, on prévient d'ailleurs le lecteur dans un chapitre pour lui expliquer que concrètement, on n'a absolument aucune intention de s'intéresser aux sources du Canard Enchaîné et on ne le fait pas.
Si, vous le faites.
Non, on ne le fait pas, Sonia. Ce qu'on fait simplement, c'est que nous, on sait depuis le temps qu'on enquête et qu'on sort des affaires, que les affaires ne viennent jamais par hasard. Voilà, elles sont toujours instrumentalisées, intéressées. Et les journalistes sont souvent des vecteurs. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on a voulu
c'est
faire...
C'est extrêmement intéressant ce que vous dites.
Souvent.
Parce que c'est souvent ce qu'on entend dans ceux qui sont les détracteurs du journalisme. Ils ne reconnaissent jamais le travail des journalistes. Ils disent « c'est arrivé ficelé sur leur bureau, c'est un complot et c'est un coup bas de mes ennemis ». Donc on ne reconnaît là-dedans jamais, dans ce genre d'argument, le travail du journaliste.
Sauf que moi je crois au travail d'initiative des journalistes, et c'est ce qu'ont sûrement fait les gens du Canard Enchaîné, c'est ce qu'ils ont dit en tout cas. Et par contre, en revanche, on sait que les journalistes sont aidés dans leur travail. Il faut des sources, les sources amènent
quelques
des informations.
Quelques bonnes âmes, écrivez-vous.
Oui, des bonnes âmes, ou en tout cas des sources. On en a suffisamment usé nous aussi pour savoir à quel point... ces sources sont indispensables au travail du journaliste. Alors, on ne peut pas les révéler. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est on peut essayer de comprendre comment s'est mise en place la mécanique qui a abouti à la Bérézina à la droite. Or, comment elle s'est mise en place? Évidemment, il y a plein de gens qui étaient intéressés à l'idée d'abattre François Fillon.
Mais parce que vous allez fouiner la question de l'Assemblée, la direction des affaires étrangères, de financières, les services de paix, l'administration fiscale, Bercy, pour avoir autant de précisions, le clan Sarkozy, Rachida Dati. Vous allez fouiller chacune des pistes potentielles, Fabrice Lhomme.
Oui, absolument. Mais surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, j'allais dire, on a reconstitué l'enquête ou les enquêtes qui ont été menées par un certain nombre de personnalités de droite elles-mêmes et qui étaient restées dans l'ombre. Et moi, je trouve que c'est intéressant de révéler que à l'Assemblée nationale, au niveau de la Questure, il y a eu une enquête interne qui a été faite pour savoir si les fuites venaient de là ou pas. J'allais presque dire, il est presque indifférent de savoir si ça a donné des résultats ou pas. La première information qu'on publie, c'est déjà de dire qu'il y a une enquête interne. Personne ne le savait. Après, la conclusion aussi qui apparaît à travers notre enquête, même si on ne va pas tout dévoiler, mais c'est qu'il y avait tellement en fait de possibilités fuite que trouver le coupable est presque impossible. D'autant plus que nous on prend l'image du roman d'Agatha Christie avec le crime de l'Orient Express, c'est que nous notre conviction c'est qu'il n'y a pas un coupable entre quand je dis coupable ou un auteur de fuite. Il y en a eu plusieurs parce que il y avait tellement de personnes qui avaient intérêt à régler son compte à François Fillon.
Alors justement, j'en viens à ce qui m'a le plus surprise dans la lecture de votre ouvrage qui sort chez Fayard, Apocalypse Now. Vous racontez qu'en quelques heures, le parquet national financier va ouvrir une enquête préliminaire, qu'en quelques jours, un communiqué va être publié, très inhabituel, qui laisse penser qu'il n'y aura pas de classement sans suite, du genre « on vous prévient », et puis que le délai de procédure moyen du parquet national financier est plutôt de 2 ans et demi, que là, la pression, elle est énorme sur les épaules de sa patronne, et que tout ça a été à une vitesse qu'on n'imaginait même pas. Gérard Davet. Et d'une certaine manière, vous allez dans le sens de François Fillon lui-même en montrant que finalement, il a eu droit non pas à un traitement de faveur, mais à un traitement de défaveur.
Oui, c'est effectivement le cas. Mais on n'a jamais eu de problème avec Fabrice à assumer ça. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les faits. Par exemple, pendant l'affaire Bettencourt, on a été les premiers à écrire que Nicolas Sarkozy ne pouvait pas être envoyé en correctionnel. Voilà, parce que les faits n'étaient pas suffisamment étayés. Là, en l'occurrence, c'est pareil. François Fillon, effectivement, la complexité, c'est ce qui est quand même le plus passionnant dans l'information. François Fillon a effectivement fauté, mais il n'empêche que la justice a été extrêmement vite et qu'on étaye ça avec des déclarations.
Vous dites que la magistrature a fait preuve d'un zèle jamais
c'est
vu.
La vérité. C'est la vérité. Et on a les déclarations.
Vous dites, tout a été fait pour qu'il soit mis en examen avant le premier tour de la présidentielle.
Ce ne sont pas des rumeurs. On a réussi à faire parler un haut magistrat qui s'appelle Monsieur Hayat, qui est le patron, qui était le président du tribunal de grande instance de Paris, qui nous explique concrètement, en assumant ses propos, qu'il a lui-même désigné le juge Serge Tourneur.
Là aussi, grosse surprise, c'était pas le juge qu'on attendait.
Non, il fallait que ce soit Serge Tourneur. Voilà. Pourquoi? Parce que Serge Tourneur est un chasseur redoutable qui va vite et qui ne respecte pas ce qu'on appelle la trêve électorale. Vous savez, cette trêve électorale, en général, on décrète en période d'élection, on ne va pas aller trop loin d'un point de vue judiciaire pour ne pas gêner les élections. Eh bien, lui, Serge Tourneur, il s'en fiche éperdument de la trêve électorale, ce qui a abouti à la mise en examen de François Fillon très rapide et donc à son élimination du paysage électoral.
C'est-à-dire que votre enquête, elle est plutôt infamante, entre guillemets, pour François Fillon. C'est-à-dire que vous faites vraiment un portrait à lui, de lui, avide, avare, à Proguin, absolument, mais obsédé littéralement par l'argent et un type humainement détestable. Mais dans ses conclusions de votre enquête sur la machine judiciaire, vous allez plutôt dans votre sens. Ça signifie, Fabrice Lhomme, qu'on ne doit pas enquêter en ayant un avis prédéterminé. C'est-à-dire que l'enquête ne sert pas à démontrer quelque chose que vous avez décidé par avance.
C'est ce qu'il faut essayer d'avoir en tête. Ouais. Je dis bien, faut essayer parce que on donne avec Gérard des cours comme beaucoup de journalistes dans des écoles de journalistes régulièrement, et on essaye pour leur apprendre l'enquête de leur mettre en tête deux injonctions qui sont contradictoires. C'est que on part sur une enquête, faut avoir une idée, faut savoir ce qu'on cherche. Mm-hmm. Comme on dit souvent, pour trouver, faut savoir ce qu'on cherche. Donc on a forcément un petit peu un a priori. Mm-hmm. Et en même temps, l'autre injonction, c'est qu'il faut savoir penser contre soi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, si les faits ne viennent pas dans le sens qu'on avait estimé, voire espérer, eh bien, il faut avoir le courage, l'honnêteté intellectuelle de faire demi-tour. Donc là, on a fait exactement comme ça dans l'affaire Fillon. L'affaire Fillon, pour nous, c'était un homme qui avait franchi la ligne jaune, très clairement. On accumule plein d'informations et ça nous confirme, ça va même au-delà de ça. Et concernant l'attitude de la justice, à force de parler avec beaucoup de magistrats, surtout des magistrats, on se aperçoit qu'il a bénéficié d'un traitement, entre guillemets, de défaveur.
Ah ouais.
Et ben, ça se raconte. Et moi, je ne vois pas de contradiction du point de vue journalistique. Il y aurait une contradiction si on avait dit, voilà, on va faire un livre à charge contre François Fillon. Mm-hmm. Là, on pourrait dire, bah non, mais ça va pas, là, c'est pas à charge. Bah oui, effectivement. Parce qu'on fait un livre ni à charge, ni à décharge.
J'aimerais que nous parlions, pour terminer, de vos personnages. C'est-à-dire que vos enquêtes sont peuplées de personnages. Vous en faites même, des archétypes, de vos personnages. Parlons éventuellement de Robert Bourgi, celui qui a totalement assumé avoir piégé Fillon avec l'histoire des costumes. Il lui a offert pour 13 000 euros de costumes. L'autre aime tellement les belles choses et il aime tellement pas dépenser d'argent qu'il accueille à bras ouverts ce cadeau. Et ensuite, ça lui sera reproché. Pas d'un point de vue pénal, pas d'un point de vue juridique, mais ça l'a tué médiatiquement. Bourgi, c'était un vieux fan et un très vieil ami, Nicolas Sarkozy. Donc, c'est sa vengeance. Des personnages comme ça, Gérard Davet, il en faut pour faire vivre, pour donner de la chair humaine à ces enquêtes.
On ne fait pas semblant, on les abandonne pas, ces personnages. Il y a des personnages qui sont incroyables comme Bourgi, d'autres comme Lavrieux dans le premier tome.
Oui.
Ce sont des personnages qui sont plus vrais que nature, plus grands que la vie, à vrai dire.
Ouais.
Et oui, effectivement, on s'est aperçu que dans la politique, dans le domaine politique, il y a des personnages incroyables qui jouent des rôles essentiels. Et ces rôles essentiels, souvent, ils ne sont pas racontés ou alors mal racontés. Nous, notre travail, c'est d'aller au contact de ces gens-là et de raconter qui ils sont, mais avec leur travers aussi. C'est-à-dire qu'on met tout sur la table.
Mm-hmm.
Le lecteur, il n'est pas surpris, il sait à qui il a affaire. Et je pense que c'est essentiel.
Pourquoi vous reconstituez les dialogues? Je me suis toujours posé cette question. C'est-à-dire que la reconstitution, on est quand même à cheval entre le journalisme et la fiction. À la télévision, ça donne toujours des scénettes complètement pourries, qui sonnent super faux, parce que c'est rejoué par des comédiens. Pourquoi ce serait plus authentique avec le texte?
Je suis d'accord,
Fabrice,
que c'est pas facile à faire. On le fait d'abord, on n'en abuse pas, je pense. On le fait de temps en temps. Mm. Et on le fait on pense avoir pu recouper de la manière la plus précise possible.
Le dialogue auquel vous n'avez pas assisté.
Le dialogue auquel on n'a pas assisté. Après, je pense que dans la galaxie des journalistes français, je pense qu'on n'est pas ceux qui peuvent être le plus accusés, j'allais dire, de déformer les propos des gens, puisque, comme vous l'avez dit, on enregistre systématiquement toutes les interviews et on reprend au mot près, parfois même avec quelques fautes de syntaxe, ce que nous disent les gens. Alors, c'est vrai que parfois, ça nous amène aussi, en plus, j'allais dire, à reconstituer certains dialogues. Mais encore une fois, on le fait de manière, quand on est à peu près sûr de nous.
Et en général, ce que vous transcrivez est archi-violent. Gérard Davet, Fabrice Lhomme, Apocalypse Now, Les années Fillon, c'est sorti chez Fayard et ça se dévore. Merci d'être venu sur France Inter.
Merci à vous.